le monde à quel point on s'est fait raconter des histoires aux États-Unis. Les Américains vont pleinement prendre conscience de ça. Et le mot propagande devient extrêmement négatif. Hein. Et en 1928, donc 10 ans plus tard, Bernays tente quand même de lui donner une connotation plus neutre, de lui rendre la connotation plus neutre qu'il avait au début. Il peut le faire parce qu'il assume pleinement, je pense, parce qu'il assume pleinement la prémisse sur laquelle son travail repose, à savoir que les gens sont incapables de réfléchir comme la démocratie l'exigerait. Son travail se fait en partie dans l'ombre, mais la justification est pleinement offerte. Il a l'honnêteté de donner pleinement la justification du travail qu'il fait.
Est-ce que chez vous, au Québec, Canada, États-Unis, vous êtes plus conscient de ces manipulations? Nous, en France, on appelle ça la com. On dit, oh là là, on a un gouvernement qui dirige sur la com, ils font de la com. Est-ce que vous êtes plus conscient que nous là-dessus?
Écoutez, je croirais que dans les milieux militants au Québec et au Canada, on est un peu conscient de ça. Le nom de Bernays est connu. Mais vous remarquerez que dans la majorité des gens, même aux États-Unis, Edward Bernays, c'est pas quelqu'un de très, très connu. C'est quelqu'un qui est resté relativement peu connu. Or, je crois sincèrement qu'on peut difficilement comprendre le 20e siècle en ignorant complètement Bernays et ce qu'il a fait. C'est quelque chose d'extrêmement important, les relations publiques. Donc, c'est insuffisamment connu. Aux États-Unis, sans doute à cause du travail de Chomsky, notamment, Bernays est devenu plus connu. Et il y a aux États-Unis une chose que je leur envie beaucoup, c'est des groupes qui sont consacrés exclusivement à surveiller les firmes de relations publiques. Mmh. Alors, il y a des groupes qu'on appelle PR Watch, surveillance des relations publiques, de l'industrie des relations publiques. C'est sur Internet. Les auditeurs, les auditrices peuvent aller faire un tour là. Et ils suivent de près l'activité des firmes de relations publiques. Je crois que ça serait une bonne chose que ça se répande.
Parce que ce qui se passe fondamentalement chez Bernays et sur toute cette industrie, sur toute cette propagande, entre guillemets, c'est que c'est, tu le disais en commençant, c'est une négation de la démocratie. C'est-à-dire qu'on croit bien sûr vivre en démocratie dans nos pays. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est qu'en partie vrai. On oppose toujours ce bonheur de vivre en démocratie par rapport au malheur de vivre dans des dictatures. Mais c'est quand même oublié que nos démocraties sont limitées et ressemblent beaucoup à l'idée que s'en faisaient Lippmann et Bernays dans les années 20.
Tout à fait. Et je pense qu'il est important d'essayer d'avoir une notion conceptuellement claire de ce qui se joue ici. Hein. Ces gens-là, moi j'aime bien me rapporter ça à l'éducation. Je pense que la propagande est à la discussion démocratique ce que l'endoctrinement est à l'éducation. Si on endoctrine, on a cessé d'éduquer. Et si on fait de la propagande, on a cessé d'avoir un dialogue démocratique. Et qu'est-ce qui joue dans les deux cas? Bien, il joue ceci. Il joue que des gens ont l'intention de fermer l'esprit des gens sur une doctrine et utilisent pour ce faire des moyens irrationnels. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la rationalité, qui ne sont pas ceux que la rationalité exigerait. Endoctriner, c'est ça. Endoctriner, c'est vouloir fermer l'esprit des gens auxquels on s'adresse, des enfants ou des adolescents, sur une doctrine, c'est-à-dire sur quelque chose qui est contestable, sur lequel on pourrait avoir des désaccords, et en utilisant toutes sortes de moyens irrationnels pour le faire, en donnant pas toute l'information, en laissant pas la discussion libre, en associant émotivement certaines choses à d'autres. Et je pense que la propagande telle que la propose Bernays fait exactement la même chose. Elle ambitionne, il y a propagande parce qu'il y a intention de fermer l'esprit du public ou de lui faire adhérer de manière inconditionnelle à des pratiques ou à des théories ou à des idées. À une doctrine donc de cet ordre et à l'aide de moyens qui débordent ce que la discussion rationnelle permettrait seulement d'utiliser. Un monsieur qui a écrit une histoire magnifique des relations publiques justement, en 1990, parle de son projet de livre à son voisin et lui dit « Je prépare une histoire des relations publiques ». Et son voisin lui dit « Il faut que tu en parles à Edward ». Et là, il lui dit « Qui Edward ?» Ben, Edward Bernays. Et le monsieur qui prépare ce livre-là savait que Bernays était né en 1891. Et donc, avec raison, il s'était imaginé qu'Edward Bernays était mort depuis longtemps, en 1990. Apprenant qu'il est toujours vivant, il le contacte, prend rendez-vous avec lui, va le retrouver dans sa maison de Boston. Et son livre s'ouvre alors qu'il raconte cette rencontre avec Bernays, qui est resté un maître en manipulation. L'homme en question ne réussira à obtenir aucune réponse aux questions précises et difficiles qu'il était venu lui poser. Et à la fin de cette rencontre avec Bernays, il appelle un taxi. Et Bernays, à la porte, lui dit « Vous n'auriez pas dû prendre un taxi, ça coûte trop cher, vous devriez prendre les transports en commun. » Et lui dit « En ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais conduit. J'ai toujours eu des chauffeurs à mon emploi. » Puis il se met à raconter l'histoire de l'un d'eux qui s'appelait Dom Jack, ça veut dire Jacques le Crétin. Il l'appelait Jacques le Crétin. Et Dom Jack travaillait donc pour lui du matin au soir pour 25 $ par semaine, n'avait presque jamais de congé, s'endormait à la table le soir tellement il était fatigué. Et Bernays va laisser tomber la garde à ce moment-là. Il va dire « C'était le bon temps, c'était avant que les gens n'acquièrent une conscience sociale. » Et je